going to introduce everybody, and then we can all pass.
Good afternoon, everyone.
Bonjour à tous. Bienvenue à notre séance sur les activités et les révisions relatives au programme des nouveaux GTLD. Je m'appelle Karen Lentz, je suis directrice des opérations et des recherches sur les politiques à l'ICANN et j'ai aujourd'hui un grand panel de personnes qui vont vous parler de ce qui se passe par rapport à ce programme. Pour ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, le programme des nouveaux GTLD existe depuis plusieurs années déjà. Et la communauté ICANN a fait beaucoup de travail pour ouvrir le niveau supérieur, le haut niveau de l'espace des noms, de manière à ce que de nouveaux GTLD puissent être ajoutés au cours des années passées. Nous considérons cette séance un petit peu comme le bus de touristes qui vous balade dans la ville pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qui existe. Il y a d'autres séances pendant la semaine qui pourront vous permettre de rentrer dans les détails des différents sujets dans les domaines qui vous intéressent spécifiquement. Et donc, nous vous présenterons quelles seront ces séances cette semaine. Commençons en ce qui concerne donc notre ordre du jour. Commençons par une discussion sur le travail de ce qui se passe dans les organisations de soutien et les comités consultatifs au sein de l'ICANN. Ces comités et organisations font un travail soit de considération des résultats au sein du programme et nous regardons également l'avenir, les recommandations, les considérations qui pourront être appliquées au processus futur du programme. Ensuite, nous passerons à des sujets spécifiques, des révisions d'activités, des études qui sont en cours. Donc voilà, nous allons passer tout ceci en revue et ensuite nous aurons un peu de temps pour vos questions. Je vais présenter le panel assez rapidement, à commencer par Marie Wang qui nous parlera du personnel ICANN, qui nous parlera des activités de politique au sein de la GNSO, au Bakerali du GAC et du groupe de travail sur les noms géographiques. Il y aura également Alice Mounia et Tracy Heckshaw du GAC, du groupe de travail sur les régions mal desservies. Heather Forrest est ici du groupe de travail intercommunautaire sur l'utilisation des noms de territoires et de pays. Jim Gallivan est là du SSAC. Nous avons Margie Mellon du personnel qui nous parlera de la concurrence, du choix et de la confiance du consommateur et de la révision dans ce domaine. Brian qui nous parlera des outils de mesure qui ont été collectés. Il est personnel ICANN et donc il s'occupe de la révision CCTL. Greg Wilford du groupe d'analyse qui nous parlera de l'étude économique qui a été effectuée pour voir un petit peu les effets de la concurrence dans le cadre du programme. Dave Dickinson de Nielsen qui nous parlera des résultats d'un sondage des titulaires de noms de domaine sur lequel nous avons publié un rapport. Christina Flores de l'ICANN nous parlera de la mise en application du programme et du rapport sur la révision de ce programme qui a été publié et qui couvre un certain nombre de sujets concernant la mise en œuvre du programme et le traitement des applications. Et ensuite, la dernière personne nous parlera de la révision des protections des droits ainsi que la révision sur le centre d'échange des marques. Et Dave Conrad, enfin, notre dernière intervenante nous parlera de l'étude sur la racine et sur l'impact du programme sur la racine du programme des nouveaux GTLD. Maintenant, je vais passer la parole à Marie pour commencer. Merci, Karen. Alors, bonjour à tous. Je suis donc la première dans votre bus de touriste. Bienvenue à cette organisation de soutien au nom, donc la GNSO. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes vétérans, vous connaissez très bien le processus de politique de l'ICANN, mais pour ceux qui sont nouveaux, eh bien, bienvenue. Nous nous sommes dit qu'il serait utile de focaliser ou de souligner plutôt deux projets qui pourront conduire à un travail dans la politique au sein de la GNSO. Et vous voyez ces deux projets dans les deux points qui sont à l'écran. Mais avant de passer dans les détails, ce diagramme que nous avons inclus, nous l'aimons bien, mais nous l'appelons donc le serpent. Et il vous montre les différentes étapes du processus de développement de politique de la GNSO, c'est-à-dire le processus PDP. Il est utile déjà pour les nouveaux, mais aussi pour tous les autres, parce que le PDP de la GNSO est un petit peu différent des autres processus qui sont utilisés dans les autres SO et AC. Donc, en ce qui concerne les deux projets éventuels que nous avons mis à l'écran, à savoir où nous en sommes dans le processus PDP, eh bien, nous en sommes à la phase précoce, au début du travail. Vous le voyez dans le cercle rouge qui est à l'écran. Nous sommes en train de définir la question. Et donc, la première question, donc les séries suivantes des nouveaux GTLD, c'est donc un rapport préliminaire sur cette question qui a été publié assez récemment et qui est maintenant ouvert pour commentaires publics jusqu'au 30 octobre. Deuxièmement, même chose, ouverture commentaires publics récente avec révision potentielle de tous les mécanismes de protection des droits qui ont été développés pour tous les GTLD. Alors, j'en dirai un petit peu plus là-dessus, parce qu'il me reste 2 minutes. Ce qui est important, lorsqu'on revient au diagramme du serpent, comme je le disais, nous en sommes à une phase précoce. C'est une phase d'analyse et donc les commentaires publics sont très, très importants de manière à informer la GNSO, le conseil de la GNSO, par rapport à leur décision, à savoir si, oui ou non, il faut lancer ces deux PDP. Donc, envoyez-nous vos commentaires publics donc jusqu'au 30 octobre et jusqu'au 30 novembre pour le deuxième projet. Les séries suivantes de nouveaux GTLD, c'est relativement clair. Cela revient aux principes du début de la GNSO qui ont été adoptés, je crois, en 2007. S'il y a un PDP, s'il y a vote du Conseil pour lancer ce PDP, eh bien, ce PDP pourrait clarifier, changer, amender ce qui existe dans les principes qui existent actuellement et qui ont gouverné ce programme. En ce qui concerne le mécanisme de protection des droits, cela est plus focalisé. Il se focalise sur les divers processus politiques et procédures qui ont été élaborés au fil des années pour protéger les droits des détenteurs de marques dans les GTLD. Il est important de noter que pour ce travail spécifique, donc la révision RPM, cela couvrirait les anciennes politiques, par exemple l'UDRP, qui s'applique aux anciens GTLD, et cela ne concerne pas uniquement les nouveaux GTLD. Et puis, bien sûr, il y a les nouveaux RPM qui ont été développés pour le programme des nouveaux GTLD, et nous en parlerons un petit peu plus par la suite. Donc, je vais terminer et passer à Olva avec un petit peu une annonce, parce qu'il y a une séance dans la semaine au cours de laquelle nous pourrons vous présenter ainsi que profiter d'une discussion avec vous ce qui existe dans ces rapports, quelles sont les questions sur lesquelles nous souhaitons votre feedback et ainsi que les étapes à venir. Merci beaucoup. Merci Marie, merci Karen. Olga au micro. Donc voilà, deuxième arrêt. Je m'appelle dans votre bus, je suis représentante d'Argentine, je m'appelle Olga Cavalli. Je suis au GAC et donc je travaille à ce groupe de travail dans le GAC depuis la création de ce groupe lors de la réunion de Buenos Aires à la fin de 2013. Et merci Karen pour cette invitation. Donc nous nous sommes retrouvés pour la première fois à Los Angeles, je ne sais pas si vous vous souvenez, et depuis Karen m'a toujours invité moi ou d'autres personnes pour présenter un petit peu ce que nous faisons dans ce groupe de travail interne. J'ai 5 diapositives, mais je veux me concentrer sur 2 seulement parce que je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. J'utiliserai le reste des informations simplement à titre informatif. Vous pouvez me contacter si vous voulez davantage de détails par rapport à ce groupe de travail interne au sein du GAC. Alors, pourquoi avons-nous créé ce groupe de travail? Lors du communiqué de Durban, donc c'était à l'époque un avis du GAC pour Amazon, il y avait des noms géographiques qui étaient demandés comme TLD. Ce sont des noms qui n'étaient pas sur la liste officielle des Nations Unies ou sur d'autres listes qui sont utilisées pour les CCTLD. Nous avons donc commencé au sein de ce groupe de travail, donc lors de la réunion de Buenos Aires, à réfléchir à cela. Et donc, depuis, nous avons fait plusieurs choses. Alors, quels sont les objectifs de ce groupe de travail? Eh bien, nous souhaitons, au cours de la nouvelle série des nouveaux GTLD, avoir moins de conflits en ce qui concerne l'utilisation des noms qui sont pertinents aux communautés, aux pays, et qui ont une signification pour les populations et qui existent dans des sous-régions, dans des villes. Par exemple, le point spa, nous avons la Thaïlande, nous avons la Patagonie, etc. Donc, plusieurs exemples qui ont généré certains conflits. Alors, mon idée personnelle, après le travail de ce groupe de travail et pour cette nouvelle série de GTLD, c'est que je souhaiterais voir davantage de réussite et moins de conflits. Donc voilà, au moins, ce que nous souhaiterions avoir. Donc nous souhaitons réduire l'incertitude à la fois pour les communautés, les pays, pour les gouvernements ainsi que pour les candidats. Il y a beaucoup d'argent, de temps, d'efforts qui sont investis dans les candidatures. Donc plus les règles sont claires, meilleur sera le résultat. Donc c'est ça l'objectif. Voilà pourquoi nous souhaitons cette révision. Nous voulons éviter la mauvaise utilisation des noms qui sont pertinents pour la communauté. Nous savons que ces noms ne font pas partie de listes officielles. Et du point de vue des dirigeants, ils sont disponibles pour certains. Ils sont disponibles pour tous. Mais en même temps, ils ont une certaine signification pour beaucoup de personnes, de gouvernements, de communautés. Donc il y a un conflit. Et il faut donc faire attention et voir comment nous pouvons diminuer cette incertitude. Pour réduire l'incertitude. Dans notre travail, nous donnons un peu de travail au personnel de l'ICANN ainsi qu'à la GNSO pour que le processus que Marie vient d'expliquer soit effectué. Et je vais passer à la dernière diapositive dont je vais parler. Alors, nous sommes en train de faire la chose suivante. Nous injectons les informations que nous avons collectées pendant les deux années de travail donc à la GNSO. Nous souhaitons faire des commentaires par rapport au processus que vous avez commencé dans le PDP et nous sommes en interaction avec l'ICANN de manière à rassembler des informations sur le processus. Nous avons préparé un document préliminaire l'année dernière et c'est la première fois, je crois, au GAC que nous avons ouvert ce document. Ce n'était pas en fait un document GAC, ce n'était même pas le document du groupe de travail, c'était une idée. Donc nous avons ouvert ceci aux commentaires publics. Nous avons reçu beaucoup de commentaires, nous les avons traités, nous les avons utilisés à Singapour et il y a eu beaucoup de préoccupations juridiques en termes de disponibilité de ces noms qui ne devraient pas être réservés pour des pays ou des communautés. Donc c'est là-dessus qu'il nous faut travailler. Nous avons développé des meilleures pratiques qui sont sur d'autres diapositives. Je ne vais pas en parler parce que c'est très long, mais vous pouvez regarder ce que nous avons trouvé. Et donc, que peut-on faire pour que les choses soient exécutoires? Donc la première série, ce qui s'est passé, c'est que les candidats devaient entrer en contact avec les communautés dans lesquelles les noms existaient. Mais cela n'est pas arrivé et du coup, il y a eu des conflits après la demande de candidature. Donc, c'est là-dessus peut-être qu'on pourrait revoir les choses avec la GNSC et avec le personnel de l'ICANN. Nous travaillons également à rassembler les différentes expériences basées sur la première série de ces conflits et il y a également autre chose qui a donné lieu à plusieurs commentaires, on parle de l'intérêt public. Tout le monde parle de l'intérêt public et on se rend compte que cela peut signifier différentes choses dans l'environnement de l'ICANN. Donc, nous essayons, je ne sais pas si on essaie de définir, mais plutôt de garder à l'esprit l'intérêt public et le fait que cela a une signification différente pour les gouvernements, pour les communautés ou pour les candidats. Je vais m'en arrêter là et je m'excuse, il faut que je parte dans 15 minutes. Si jamais il y a des questions-réponses, je vous invite à notre séance sur les femmes et l'ICANN à 15h15 au-dessus. Merci. Merci, Olga. Karen Lanz au micro. Merci, Olga. Donc, du GAC, je ne sais pas si Alice ou Christy sont là. Non, elles ne sont pas là. Bon. Nous allons donc passer à Heather. Heather au micro. Merci, Karen. C'est la bonne diapositive. Merci beaucoup de m'avoir invitée à être ici aujourd'hui. Je suis coprésidente de la GNSO et du groupe de travail intercommunautaire sur l'utilisation des noms de pays et de territoires, TLD. Et je crois qu'il est important, si possible, d'amender la diapositive pour noter que cela n'est pas simplement un PDP de la GNSO. C'est un effort conjoint de la GNSO et de la CCNSO. Je suis très heureuse de voir certains des coprésidents de la CCNSO ici présents dans la salle d'ailleurs. Donc, une petite mise à jour très rapide. Nous avons pu faire la même chose à Buenos Aires. Et ce que je vais dire là-dessus, c'est que ce que nous avons fait depuis cette époque est la chose suivante. Donc, ce groupe de travail considérant en particulier la question des noms de territoires et de pays utilisés comme TLD. Nous sommes arrivés à certaines conclusions par rapport à deux extensions géographiques. Et je vous encourage, si vous avez des questions, si vous avez des difficultés à les trouver, je vous encourage à aller voir nos conclusions préliminaires qui sont donc présentées sur notre page web. Donc nous allons maintenant parler des codes à trois lettres. donc la norme 3166. Et donc, en termes de méthodologie, il y a une plateforme qui s'occupait des codes à deux lettres. Premièrement, identifier le status quo actuel des politiques. Deuxièmement, considérer les options, toutes les options en ce qui concerne les politiques et ce qu'elles pouvaient faire. Et troisièmement, examiner chacune de ces options et chercher une option qui puisse être appuyée par une justification claire, robuste et identifiable. Je dois également mentionner que cette justification a été très importante de manière historique dans notre recherche par rapport au statut des politiques actuelles. Alors, ce que nous avons fait, où nous en sommes exactement pour l'instant, c'est que quelques semaines avant cette réunion d'aujourd'hui, nous avons fait passer aux responsables des différentes SO et AC ainsi qu'aux autres membres de ces organisations certaines questions en ce qui concerne la politique sur les codes à trois lettres. Si vous n'avez pas reçu ceci dans vos SO et vos AC, informez-moi. Il est très important que nos questions soient distribuées de manière aussi large que possible. Nous avions défini la date du 9 octobre pour le feedback, de manière à pouvoir avoir des choses à discuter pendant la réunion d'aujourd'hui. D'ailleurs, nous en avons discuté ce matin, c'était intéressant, mais le 9 octobre, c'était une petite cible qui n'est pas forcément très fixe. Nous sommes tout à fait prêts à recevoir votre point de vue, vos idées par rapport au code à trois lettres. Donc, c'est encore ouvert. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas reçu ces questions par le biais de vos SO et AC, dites-le-moi et je serai très contente de vous les envoyer. Merci, Karen. Jim au micro. Je m'appelle Jim Galvin et je suis actuellement vice-président du SAC. Donc, le SAC a organisé un parti de travail pendant un an. Nous avons étudié, tout comme la GNSO, la LAC, d'autres SO et d'autres AC. Nous avons donc passé en revue le programme des GTLD de manière à savoir s'il y a d'autres avis, d'autres commentaires que nous pouvions proposer pour se préparer pour la nouvelle série. En particulier, il est important de noter que le SAC a fait plus de 60 recommandations au cours des 4 à 5 années passées en ce qui concerne le nouveau programme. Et ce que je souhaite faire, c'est souligner certains de ces thèmes sur lesquels nous nous sommes concentrés. Et donc, pour vous donner une idée des conseils que nous allons pouvoir donner, des avis que nous allons pouvoir donner à l'avenir. Alors, premièrement, extensibilité de la racine. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, cette extensibilité? Au fur et à mesure que la taille augmente, les changements de la racine, eh bien, cela a un impact. Et donc, il y a un plan pour le lancement de la clé racine avec ses propres problèmes. Donc, cela nous préoccupe quand même d'une manière générale. Notre mandat est de garantir la sécurité, la stabilité du système de nommage. Et donc, il est très important pour nous que la sécurité du système soit maintenue dans l'ensemble pendant que toutes ces choses se passent. Alors, une des questions que l'on se pose, c'est qu'il y a eu beaucoup de TLD qui ont été lancés. Il y en a d'autres qui vont bientôt venir. Et donc, il est important de prendre un peu de recul et de prendre en considération le système, voir ce qui s'est passé et essayer de voir s'il y a eu des incidents important jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qui se sont produites, mais est-ce que le système a échoué de manière significative? Est-il important de se souvenir de certains des avis que nous avions donnés par le passé? Est-ce qu'il faut changer la manière dont on fait les choses? Est-ce qu'il faut surveiller de manière différente pour éviter ce genre de circonstances qui se sont produites dans le passé? Donc, nous considérons toujours cette question d'extensibilité de la racine et nous considérons les avis qui nous ont été donnés, l'expérience que nous avons, et nous essayons de voir s'il faut donc en ajouter davantage dans ce domaine. Alors, autre sujet intéressant qu'on appelle de manière plus générale la collision des noms. Nous avons l'étape d'interruption des contrôles qui fait partie du lancement des nouveaux TLD. Il y a un certain nombre de noms qui sont donc en attente de manière indéfinie. L'IETF fait son travail pour considérer s'il y a des utilisations techniques de noms qui sont réservées dans le système et que donc le programme de nouveau GTLD devra prendre en considération. Donc, nous considérons la question de savoir si oui ou non il existe des critères techniques qui seraient importants à prendre en compte, à savoir si oui ou non certains noms doivent être réservés, qui doit réserver ces noms et si ces réservations doivent être respectées ou pas. Et donc, dans le même sens, les interruptions contrôlées, est-ce toujours quelque chose d'important et doit-on toujours le faire? Au cours des quelques dernières années de lancement des nouveaux TLD, eh bien, nous sommes maintenant conscients de cette question. Le problème de collision des noms se présente en partie au niveau technique dans le domaine de la mise en application et du déploiement des logiciels dans les systèmes. Donc, il y a un moment où il faut se poser la question suivante. Combien de temps va-t-on continuer à soutenir la compatibilité des systèmes historiques? Est-ce qu'on peut évaluer et savoir si ce risque est suffisamment bas? Et à ce moment-là, on peut déterminer si oui ou non la collision des noms est importante. Est-ce qu'on peut contrôler l'interruption? Y a-t-il des avis que l'on peut proposer pour évaluer ces rejets indéfinis de noms, de manière à savoir si on peut prendre une décision définitive pour continuer ou pas? Donc voilà ce que je voulais dire dans ces deux domaines. Je me suis dit que ce serait intéressant parce que ce sont des sujets qui sont importants en général pour les gens. Si vous avez des préoccupations par rapport au travail du SAC ou des questions sur notre travail, je vous rappelle pour conclure qu'il y a une réunion publique du SAC le mardi matin. C'est assez tôt, c'est à 7 heures du matin, donc... Mais je vous encourage quand même à venir à cette réunion et à poser les questions supplémentaires que vous pouvez avoir et qui ne font pas partie de cette réunion actuellement. Karen au micro. Merci, Jim. Merci à vous tous. Donc, avant de continuer à la section suivante, est-ce que Alice et Tracy sont là? Non? Nous allons passer à la partie révision du programme. Donc là, nous avons des révisions multidisciplinaires qui ont été identifiées dans un certain nombre de domaines. Et donc, nous allons commencer par Margie Mellon, qui va nous parler de la concurrence, du choix et de la confiance du consommateur. Margie, au micro, merci. Bonjour à tous. Nous sommes en train de nous préparer à lancer la révision suivante de l'affirmation d'engagement. Nous allons donc prendre en considération le programme des nouveaux GTLD et l'impact de ce programme sur la concurrence, le choix et la confiance du consommateur. Donc, nous avons publié un appel à volontaires. La diapositive est bizarre. Bon, nous avons lancé un appel à bénévoles pour qu'ils se joignent à cette équipe de révision, donc au 1er octobre. Cela sera ouvert jusqu'au 30 octobre. Donc, nous avons en fait un mois où nous cherchons à ce que les bénévoles se présentent, soit à titre d'experts indépendants, soit à titre de représentants d'une SO ou d'un AC. Donc, il y a un endroit dans le site web, dans notre site web, vous pouvez donc soumettre votre candidature et fournir votre candidature. Donc, étant donné que nous cherchons à avoir des représentants des différentes SO et AC, donc nous allons chercher à être approuvés par les SO et l'AC. Donc, au début novembre, une fois que l'appel à volontaires sera terminé, nous allons publier une liste de candidats. Nous allons demander aux SO et AC d'approuver, en fait, les membres les personnes qui cherchent à représenter leur SO et AC. Et en décembre, une fois que nous aurons obtenu cette approbation, le processus de sélection aura lieu dans le cadre de l'affirmation d'engagement. Fadi, donc le PDG de l'ICANN, et Thomas, en tant que directeur du GAC, se rassembleront et détermineront qui fera partie de l'équipe de révision. Nous annoncerons donc quelle est l'équipe de révision en décembre. Donc, si vous regardez un petit peu le calendrier, nous pensons que une fois que l'équipe de révision aura été annoncée, nous commencerons notre travail en janvier. Et étant donné l'historique des anciennes révisions, nous pensons que ce travail sera terminé d'ici la fin de l'année avec un rapport final et des recommandations donc à la fin de 2016. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez participer, eh bien, nous souhaitons réellement avoir des bénévoles qui couvrent les différents domaines d'expertise, étant donné que... La révision est très large. Nous cherchons vraiment à avoir des personnes qui connaissent très, très bien le programme des nouveaux GTLD, qui sont au fait du modèle multipartite et des procédures. Nous souhaitons avoir des personnes qui sont experts dans le domaine de la protection des droits des consommateurs parce que cela est intéressant. Nous souhaitons savoir quel est l'impact sur le consommateur de notre programme. Nous cherchons des gens qui ont une expertise dans le DNS, dans la sécurité, la stabilité, ainsi que dans les questions de concurrence. Donc, si il y a des personnes dans la salle qui souhaitent participer, nous vous y encourageons, parce que cette révision sera très intéressante, puisque nous prendrons en considération tous ces sujets. Et ensuite, je vais passer la parole à ma collègue qui va vous parler des préparations de cette CCT. Merci, Margie. Donc, en ce qui concerne ce qu'a dit Margie, donc Karen au micro, qui dépend donc de l'affirmation d'engagement, donc 9.3, on a demandé à l'équipe de révision de prendre en considération dans quelle mesure les nouveaux GTLD ont promu la concurrence, la confiance et le choix des consommateurs, ainsi que la candidature et les processus d'évaluation et les mesures de protection mises en place pour atténuer les problèmes. Donc, pour organiser un petit peu le travail que nous avons fait en termes de préparation pour ces différents domaines qui font partie de la révision, donc si vous regardez un petit peu à droite, vous avez un gros cercle, donc l'équipe de révision. Et si vous regardez les activités qui ont été mises en place jusqu'à maintenant, eh bien, il y a donc des outils de mesure qui permettent d'examiner donc ce qui se passe en termes de concurrence, de compétition et de confiance. Également, le processus d'évaluation de la candidature en termes de protection, donc les mécanismes de protection des droits qui ont été intégrés au programme. Donc, ce travail sera décrit par les intervenants suivants. Brian
Etchison, au micro. Je suis une des personnes qui est à la tête de la recherche au sein de la CAN et je vais parler de la participation, de la concurrence, de la confiance du consommateur et des choix des paramètres qui gèrent le choix du consommateur. L'affirmation d'engagement qui contracte la révision de la CAN pour les nouveaux GTLD en termes de CCT. Et on avait demandé et recommandé des recommandations pour un ensemble de paramètres pour mesurer les CCT. Donc, des groupes de consultatifs ont fait une révision des paramètres. Les paramètres en question ont été rassemblés à partir de sources différentes. Par exemple, nous avons reçu des informations la page des statuts des nouveaux GTLD, des rapports de transactions mensuelles et autres. Certains des paramètres ont été reçus par rapport à d'autres méthodes telles que des sondages conduits par Nielsen et des études économiques aussi conduites par le groupe qui s'appelle Analysis Group. Alors, le mois dernier, le processus de publier ces paramètres sur le site de la CAN a donc démarré. Tous les paramètres ne sont pas publiés sur la page. Nous sommes en train de finaliser cela avec les dernières données. Mais la page est déjà disponible. Vous pouvez y aller. Les paramètres sont divisés en plusieurs catégories. Comme vous le voyez, il y a des données sur la conformité, sur les bureaux d'enregistrement, les opérateurs de registre, les enregistrements des noms de domaine, la navigation des noms de domaine et les mécanismes de protection des droits. Vous voyez aussi le nombre de plaintes que la CAN reçoit. Vous pouvez voir le nombre de TLD qui sont opérés par les nouveaux membres. Combien de nouveaux TLT utilisent des scripts IDN et c'est juste un échantillon de ce qui est publié. Nous essayons de faire un atelier de travail plus détaillé, par exemple mercredi matin à 8h, aller chercher un café et venez parler paramètres avec nous. Karen Lenz, merci Brian. Et donc au micro, David Dickinson, merci de rester sur le bus pour la visite guidée. La prochaine arrêt, nous allons passer à la prochaine diapo, merci. Donc, le Analysis Group a été donc commandité par la CAN pour voir quel était l'effet de concurrence avec les nouveaux programmes de GTLD dans le passé et dans le futur, l'avenir. Avec ce nouveau programme, puisqu'il est tout à fait nouveau, le but primordial dont nous avons parlé aujourd'hui, nous en parlerons plus en détail mercredi dans la réunion dont Brian a parlé, c'est d'établir une base de comment nous allons pouvoir mesurer la concurrence maintenant et dans un an. Notre équipe est composée de plusieurs personnes. Nous avons Catherine Kaker qui est professeure d'économie et moi-même. Et je suis aussi un économiste et je suis donc vice-présidente d'Analysis Group. Catherine et moi, nous avons un historique dans ce sujet-là, dans l'économie et dans la concurrence. Quand il s'agit de l'approche que nous prenons dans ce rapport, c'est que les registres, les bureaux d'enregistrement et les opérateurs de registres, donc peuvent être en compétiteur au niveau des prix. Donc, quand on parle de prix, on parle des prix que chargent les bureaux d'enregistrement aux opérateurs de registres. Il y a des ce qu'on appelle des prix de détail. Il y a aussi des autres endroits où il peut y avoir de la concurrence. Par exemple, les opérateurs de registres et les titulaires de noms de registres et les bureaux d'enregistrement pourraient essayer de s'identifier avec d'autres méthodes et peuvent avoir des prix différents qu'ils fournissent à leurs consommateurs. Donc, comment pouvoir mesurer s'il y a de la concurrence au niveau des prix, nous avons envoyé des demandes de données aux opérateurs de registre et aux bureaux d'enregistrement. Et nous avons, par exemple, reçu des données de 109 JTLD et 100 et quelques JTLD Legacy, anciens JTLD. Donc, nous avons vu qu'il y avait, nous avons donc eu des données, des gens qui avaient des nouveaux enregistrements. Nous nous assurons que le nouvel ensemble de TLD, de GTLD que nous avions échantillonné, représentait toutes les régions de l'ICANN et qu'ils avaient les capacités qui nous concernaient. Nous avons envoyé donc ces demandes. Les opérateurs de registre ont bien répondu. Les bureaux d'enregistrement ont été un peu moins rapides à répondre. Donc, nous avons dû aller vers leur site web et rassembler les données qui étaient publiées publiquement au niveau de leur prix pour l'enregistrement des noms de domaine et le reste. Oui. Oui, c'est pour vous donner un résumé assez de haut niveau, mais pour vous donner un résumé de ce que nous avons trouvé, quand il s'agit des parts d'enregistrement, nous avons trouvé que chez les opérateurs d'enregistre et les bureaux d'enregistrement, il y avait plus de pour les nouveaux GTLD que les TLD historiques. L'information qui nous a été donnée par les opérateurs de registre, on a vu que les prix étaient plus élevés pour les nouveaux GTLD que pour les TLD historiques. Nous avons commencé à regarder tout ce qui était concurrence. Nous avons vu qu'il y avait une grosse différence de prix entre les nouveaux GTLD et les TLD historiques. Leur prix était relatif au prix, par exemple, à l'achat d'un nom de domaine. Nous avons vu qu'il y avait des différences de prix. Donc, il y a une niche là. C'est important de focaliser là-dessus. Le résultat de la phase 1, puisque nous essayons d'établir une base, on ne parle pas de la concurrence à ce point-là. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous avons vu des prix plus hauts ou moins bas, ou une dispersion plus haute ou moins bas ou plus basse. Ça dépend comment les TLD se différencient, comment les TLD historiques se différencient. Peut-être qu'on va passer cette diapo parce que j'ai pas assez de temps. Je parle des évaluations que nous avons faites. Nous allons comparer dans quelques temps ce qu'on a maintenant et ce qu'on aura dans un an pour essayer de n'arriver à ce qu'on pourrait d'avoir un peu plus d'informations, si vous voulez, pour voir ce qu'on pourrait voir dans ce monde un peu concurrent pour tout ce qui est des nouveaux GTLD. Nous regarderons les prix, mais aussi les enregistrements à un certain point pour voir si on peut avoir des données sur les niveaux de transactions dans l'avenir. On va aussi inclure cela dans notre rapport. Merci. Bonjour à tous. Je vais commencer à parler. Alors, la nouvelle intervenante, passons à la prochaine diapositive. Ce sondage a été fait dans 24 pays, en 17 langues. Nous avons plus de 3000 entrevues que nous avons fait avec des adultes de 18 ans ou plus qui avaient déjà enregistré un nom de domaine, qui étaient des preneurs de décision au niveau de nom de domaine. Et nous avons fait cela au début de l'année. ICANN nous l'a demandé et Nielsen l'a fait. Il s'agit d'un sondage du consommateur. Certains d'entre vous en ont déjà vu les résultats. Ces résultats sont similaires du sondage qu'on a fait auparavant. On passe à la prochaine diapo. Continuez. Alors, un des domaines dans lesquels que nous avons exploré, où il y avait, où nous avons, comme vous voyez à gauche, vous avez les GLT, les TLD historiques. Vous voyez que c'est à peu près constant, c'est régulier. Il y a une bonne sensibilisation. Et ensuite, vous voyez que les niveaux baissent quand il s'agit des TLD historiques communs, jusqu'à ce que vous alliez dans les régions spécifiques. Là, vous voyez que les chiffres remontent. Il y a donc une bonne sensibilisation dans les régions géographiques concernées. Les nouveaux GTLD, vous voyez que ça va un peu mieux que les historiques 1. Vous voyez que les chiffres sont plus élevés, mais malgré tout, vous voyez qu'il y a encore de la distance à parcourir. Donc, on parle un peu plus de cela. Vous voyez les mêmes données que l'on montre d'une façon différente pour voir comment les gens sont tout courant des nouveaux GTLD. Vous voyez comme tout le monde était tout le monde en avait connaissance. Les .com, .net, .org. Et puis ensuite, ça baisse à peu près par la moitié pour les gens qui connaissent moins bien les GTLD historiques. Et vous voyez, pour les nouveaux GTLD, vous voyez qu'il y a un peu une meilleure impression. La majorité des participants étaient au courant d'au moins un des nouveaux GTLD. Ce qui en ressortait, c'était la différence entre les TLD ciblés au niveau géographique. Il n'était pas présent dans la prise de conscience. Il n'était pas. Mais si on regarde le patron, si vous voulez, formé par les historiques, on voit qu'il y a un mouvement quand même important. Vous voyez qu'il y a 20 points de différence. Et donc, ainsi, on pourrait considérer un marché ciblé. La prochaine diapo. Alors, l'intention de visiter, ça suit toujours le côté prise de conscience. Les gens connaissent ces choses-là parce qu'ils sont plus pertinents à leurs yeux. Donc, les chiffres sont plus élevés. Prochaine diapo. Encore une fois, allons-y. Alors, vous voyez, un autre domaine, on a regardé à la confiance, on a regardé tout ce qui s'agit de la confiance qu'on voit ici, c'est le même un peu modèle, ce qu'on a vu dans le sondage pour le consommateur, quelque chose de familier, quelque chose qui était facile à interpréter. Il y avait un air de familiarité, disons. Les GTLD qui étaient familiers ont tendance à faire plus confiance. Donc la perception de familiarité, ça a un effet sur la confiance du consommateur. Donc la confiance pour les nouveaux GTLD est plus basse, mais c'est quand même assez haut pour quelque chose qui est quand même nouveau sur le marché. Nous pensons que c'est parce qu'ils sont faciles à interpréter. Deux ou trois points au niveau de la confiance dans la case violette. Pourquoi les gens évitent qu'il y a un problème de régulation? Les gens se rendent compte que la prise de confiance, la connaissance des GTLD, puisqu'il y a beaucoup de restrictions, cela améliore le niveau de confiance. Et donc, l'autre chose, c'est que les opérateurs de registre, par contre, les titulaires de noms de registre, de noms de domaine, sont au courant des problèmes. Ils savent qu'ils doivent faire quelque chose eux-mêmes pour se protéger. Prochaine diapo. Alors, la confiance dans l'industrie du nom de domaine en général, il y a deux, trois points à faire. Les titulaires de noms de domaine ont tendance à dire que oui, ils ont eu connaissance de mauvais comportements. Ils savent, ils sentent qu'ils prennent leurs propres mesures, si vous voulez. Mais il y avait quand même on s'est rendu compte qu'ils ne savaient vraiment pas comment se protéger eux-mêmes pour faire justement pour parler des mauvais acteurs sur l'Internet. L'industrie, en général, la confiance est assez haut, est au-dessus de la moyenne, au-dessus de certains autres secteurs de la technologie. ils savent que c'est les agences doivent protéger les mauvais acteurs contre les mauvais acteurs ainsi que les forces de l'ordre. Donc le consommateur sait cela. Les études seront faites et seront déployées une année après celles qui ont été faites cette année, donc pour les consommateurs en février 2016, pour les titulaires de noms de domaine en août 2016. Si vous voulez plus, on pourra avoir plus d'informations sur les informations que nous avons faites, nous avons mises en publié. En ce qui s'agit de ces études, vous pouvez les voir sur le site ICANN. Christina Flores, au micro. J'ai parlé des révisions. Donc, nous avons parlé de ces révisions. La mise en place des programmes de révision avait pour intention de parler de choix des clients, de la concurrence et de l'efficacité de l'application, du processus d'application et d'évaluation. Pour fournir un peu d'historique, pour voir comment nous avons fait cette révision, c'est fait par le personnel de l'ICANN et cela comprenait beaucoup de personnes. Nous avons déterminé comment nous allons mettre en place ce programme de révision. Et c'est ICANN qui met en application le guide. L'ICANN avait donc cette expérience au niveau opérationnel. Nous voulions prendre en compte ce programme pour les prochaines séries de GDLD. Nous avons considéré donc les paramètres et les statistiques. Nous avons reçu d'informations vis-à-vis des participants durant les réunions avec un public, à travers la correspondance, tous ces médiums qui sont disponibles pour la communauté. Et aussi, nous avons obtenu les observations du personnel et des fournisseurs de services. Et aussi, nous allons parler des chapitres différents sur cette diapositive. Nous avons le guide de la candidature. Et ensuite, vous avez aussi les discussions qui ont eu lieu, qui ne sont pas forcément dans le guide. Notre approche, donc, des considérations pour les prochaines séries de nouveaux GLTLD, nous voulons peut-être avoir à reconcevoir certains de ces programmes. Nous avons aussi appris de ces 48 leçons, nous avons appris quelque chose, nous avons identifié ça dans notre rapport. Donc, à 5 heures dans cette salle, vous pouvez venir pour en apprendre plus sur toutes les leçons que nous avons apprises durant cette révision. Et vous pouvez aller voir cela sur le lien que j'ai soumis sur la diapositive. Antonietta Mangiacotti, je vais vous parler de la révision sur les mécanismes de protection, les droits de protection, les mécanismes des droits de protection pour le TMCH. Alors, nous avons conduit un sondage pour savoir quelle était l'efficacité de ces mécanismes qui étaient mis en place en tant que sauvegarde pour les programmes des nouveaux GTLD. Sur une période de 12 mois, nous avons analysé des données quantitatives et qualitatives et nous avons parlé des procédures d'après-délégation, de conflit d'après-délégation. Alors, cette année, la période de commentaires s'est terminée en février. Nous avons donc discuté tout cela à ICANN 53. On a vu qu'il y avait besoin d'avoir des améliorations opérationnelles, surtout à travers nos fournisseurs de services. Certains membres de la communauté pensaient qu'il y avait d'autres problèmes, d'autres questions à élaboration de politiques par le GNSO ou d'autres révisions en général. Des choses donc à améliorer. Donc la version préliminaire, le rapport de version préliminaire a été mis à jour et donc est aussi disponible. Et le RPR est révisé et a été publié en septembre cette année. Et on s'attend à ce que cela puisse servir à beaucoup d'activités, surtout les discussions pour les politiques au sein du GNSO, tous les rapports sur les RPM dont Marie a parlé tout à l'heure, les recommandations, les révisions du TMCH, et tout ce qui est des programmes sur les choix et la confiance du consommateur. Alors, la personne open. Ah oui, la même personne. Bon, excusez-moi. Vous pouvez nous rejoindre mercredi à 16h15. Nous parlerons de rapport et on parlera peut-être d'un possible PDP pour faire une révision du RPM. Prochaine diapo. La révision indépendante du TMCH, TSMH, a été faite, recommandée par le GAP. Nous voulons ainsi, pour assister les processus utilisés par le TMCH et aussi en conjonction avec le GAC, qui inclut si la période des plaintes peuvent être étendues au-delà des 90 jours et si Sunrise en bénéficierait. Échanger ma. Certains ont pensé proposer aussi des sources de données pour analyser ces processus, pour une base de données pour le centre d'échange des marques. Il y a eu des propositions qui ont été faites, des rapports de services clients et des révisions de rapports clients et nous réservons des commentaires publics pour cela. Nous voulons insister qu'il s'agit juste d'études et cela nous permettrait d'avoir des considérations et que le RPM est disponible. Et il s'attend aussi à ce que cette révision puisse identifier d'autres problèmes opérationnels qui auraient besoin d'être améliorés ou des questions pour d'évaluation qui pourraient être incluses dans les analyses du centre d'échange des marques, des choses auxquelles on pourrait bénéficier pour l'élaboration de politiques. On a suivi nous avons suivi pour qu'il s'agit la prochaine étape, le processus contractuel qui auront place avec le vendeur, il y aura une étude qui sera faite dans le quatrième trimestre de 2015. Alors, bon, je m'appelle Devine Comram. Je vais vous donner une mise à jour de l'étude de la stabilité de la racine. Nous avons choisi une organisation hollandaise pour faire cette étude pour vous. Nous utilisons la méthodologie qui est décrite devant vous. Nous avons défini les paramètres de stabilité et sécurité pertinents. Nous avons développé un plan de collecte de données et de surveillance pour la communauté, de la part de la communauté DNS. Nous avons estimé que la prochaine étape pour cette étude serait en mai 2016 pour pouvoir fournir alors un rapport en juin-juillet 2016 pour qu'il y ait une période de commentaires publics en avril 2017 pour pouvoir alors publier un rapport final. Nous demandons à ce qu'il y ait de l'information en retour. Et l'information sur la méthodologie qui peut être fournie dans la séance de mardi à 14h15. Et c'est la dernière arrêt sur le bus de visite. Karen Lance, merci à tous. Je vais finir avec une chronologie, avec un calendrier sur les activités de révision de programme. Les activités dont on a parlé, qui ont été décrites, ça n'a pas changé énormément par rapport à ce qu'on a montré auparavant. Nous sommes vraiment sur le bon chemin, comme vous le voyez. Vous pouvez voir ce qui est publié sur la diapositive. Il y a des choses difficiles à prévoir, comme la CTT révision qui n'a pas encore commencé. Et tout cela, ce que nous avons sur l'écran, c'est basé sur ce qui a déjà été fait par les équipes. Dans l'avenir, nous pourrons fournir des détails, un calendrier plus détaillé. Quand il s'agit des activités, beaucoup d'entre elles seront complétées durant l'année 2017. Et je voulais souligner rapidement toutes les séances liées à ce sujet que nous aurons durant la semaine, durant les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Nous n'avons pas eu le temps, nos panélistes n'ont pas eu le temps de les explorer comme ils le devraient. Donc, si vous voulez, vous êtes encouragés à participer à toutes ces réunions que vous voyez à l'écran. Donc, maintenant, je vais ouvrir le micro à des questions et des réponses. Il y a des micros sur les tables et il y en a aussi dans la salle. Donc, on peut vous apporter le micro si besoin est. Et ensuite, nous aurons la participation des questions certainement à distance dans le Adobe Connect et nous pourrons répondre à ces questions-là. Rubenski au micro. Une question pour David Conrad. L'interruption contrôlée. Combien de rapports de collision est-ce que ICANN a reçu? Et de ces collisions, combien d'entre eux pouvaient porter atteinte à la vie? David, oui, je crois que la réponse à la dernière question, c'est non, mais je devrais passer la parole à Francisco pour qu'il vous donne les statistiques correctes. Francisco, du personnel de l'ICANN. Je pense que le chiffre est en dessous de 30. Je pense que c'est 27. J'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que c'était 27. Il n'y avait pas aucune atteinte à la vie. C'était pas des questions qui portaient atteinte à la vie. Marilé Massio. Je fais partie d'une dite constitutive commerciale. Je voudrais comprendre la relation entre la révision CCT et la discussion du GNSO sur les procédures, parce que il y a des questions qui se chevauchent et cela va venir vers nous en tant que PDP. Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous réglez les processus séparément? Est-ce que CCT est vu séparément? Deux questions sur les paramètres. Moi, je ne pourrais pas aller aux prochaines séances. Donc, je pose des questions maintenant. Les paramètres capturent les tendances du marché. Est-ce que vous essayez d'obtenir les conditions qui bloquent l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché DNS, surtout dans le monde en voie de développement? Et une question vite fait sur le rapport. Les rapports montrent que l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique sont les régions qui sont les meneurs des acceptances pour les acceptances de nouveaux GTLD. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça? Ce serait utile.
Karen au micro, merci pour ces questions. Pour ce qui est de la première question, donc, je la rappelle, quelle est l'interaction entre les CCT et le CCT et la révision du programme CCT en ce qui concerne le travail de développement des politiques qui pourraient avoir lieu en termes de procédure au sein de la GNSO. Pour ce qui est de leur fonctionnement, eh bien, le fonctionnement est indépendant. La révision CCT vient de l'affirmation d'engagement et nous essayons de l'exécuter. La GNSO détermine son propre calendrier, son propre ordre du jour en termes de travail sur les politiques qu'elle souhaite faire et donc elle utilise différentes étapes définies par le biais du processus PDP. Donc on pourrait, en théorie, n'y avoir aucune interaction entre ces processus. Maintenant, là où nous en sommes, les gens savent très bien que ces deux processus existent et que ces deux discussions ont lieu. Donc, je sais qu'à la GNSO, par exemple, il y a eu des discussions à savoir quelle est la bonne méthode, peut-être de suivre l'équipe de révision et de planifier le travail de manière à s'aligner soit avec ces discussions, soit avec le calendrier. Donc, cela dépend des deux groupes, je crois. C'est à eux de voir comment ils souhaitent interagir. Et Mary, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Mary au micro. Karen a très bien décrit les processus. Je crois que nous allons parler en détail de ceci dans la séance consacrée aux deux rapports mercredi. Mais à la base, d'un côté, beaucoup du travail qui est en train d'être fait par rapport à ces différentes révisions en cours fait référence au fait qu'il y a un travail de PDP qui pourra être fait par la GNSO. C'est possible. Et donc, pour ces rapports sur les questions, le RPM1, il y a une discussion très explicite par rapport au potentiel, rôle potentiel que la révision CCT dont vous avez parlé pourra jouer et à savoir comment est-ce que cela va avoir un impact sur la décision à venir de la GNSO dans son travail. Alors, la question de la compétition. Nouvel intervenant au micro. Merci pour la question. Elle est excellente, cette question. Ce n'est pas quelque chose que à quoi nous avons vraiment réfléchi, que nous souhaitons incorporer dans le premier rapport qui est maintenant en ligne. Mais en termes de réflexion des résultats, dans un an, c'est très intéressant. Donc moi, ce que j'anticipe, c'est que je ne sais pas exactement mais je crois que c'est très intéressant en termes de phase 2. Je ne sais pas exactement ce que dira le rapport, mais... Alors, Karen au micro. Ce rapport est ouvert pour commentaires publics et donc c'est important de, d'en parler. Dave au micro. En ce qui concerne les nouveaux GTLD et donc l'intégration dans certaines régions, c'est vrai que cela existe dans les données. Et donc, ce que j'interprète par rapport à ce qui se passe là, c'est que en partie, cela peut être une question de pertinence, perçue en tout cas dans certaines de ces régions, mais je crois qu'en grande partie, il y a une focalisation, un appui sur les TLD historiques en Amérique et en Europe, mais au lieu de cette focalisation, il y a plus d'ouverture. Et donc, il est plus facile pour les gens de rentrer dans ces nouveaux domaines lorsqu'ils ne sont pas focalisés sur le .com. Karen au micro. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Suzanne, allez-y. Suzanne Pem, merci. Je suis membre du comité sur la NTIA et j'ai une question pour Olga. Dans le commentaire qui a été fait par rapport au travail de votre groupe de travail par le passé, certaines questions ont été soulevées par rapport aux lois internationales. Et donc, je voudrais savoir si votre groupe de travail a cherché à obtenir des avis de l'aide sur les questions des lois internationales, de la législation internationale, soit à l'externe, soit par vos propres experts, par exemple, peut-être des collègues, des membres du GAC qui font partie également des gouvernements. Olga, au micro. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Donc, des lois qui seraient liées à la protection des noms, c'est ça? Est-ce que nous avons passé ceci en revue? Suzanne? Oui. Olga au micro. Nous n'avons pas encore fait cela, mais nous en avons l'intention. Premièrement, nous souhaitions revoir un petit peu l'expérience que nous avions eue pendant les TLD, pendant la première série. Et il y a certaines nations qui ont dit qu'il y avait une protection nationale des noms pour certains pays. Ce n'est pas quelque chose qui existe partout. Et bien sûr, c'est au niveau national. Et c'est effectivement quelque chose qui fait partie de notre travail prévu. Nous espérons y arriver, mais nous n'en sommes pas encore là, pardon. Jordan? Jordan au micro. Oui, j'ai deux questions en ce qui concerne l'extensibilité de la racine, cette question-là. Donc, premièrement, Jim. Jim a mentionné que le SAC considérait l'extensibilité de la racine comme un des sujets. Mais il semblerait que l'ICANN a également une révision séparée là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a une interaction entre ces deux choses? Deuxièmement, Dave, je crois que si on considère ces informations, y a-t-il eu des tentatives d'aller au-delà de l'extensibilité de la racine, de voir quel est l'impact dans l'infrastructure plus large de l'Internet? Nouvel intervenant au micro. Je vais répondre rapidement. Donc, l'étude sur la racine qui a été faite par son équipe, c'est une des recommandations qui a été faite par le SAC. Donc, c'est quelque chose qui a été fait de manière historique. Nous prêtons attention à ce qui est fait de leur côté et nous observons la méthodologie et nous allons bien sûr passer en revue le rapport final. Nouvel intervenant au micro. En ce qui concerne l'impact au-delà des serveurs racines en eux-mêmes, l'impact plus général, la méthodologie que nous considérons a principalement pour but le système de serveurs dans son ensemble. Et donc, en termes de résolution, allons-nous en parler avec Liana pour voir si on peut explorer cet aspect spécifique? Eh bien, je prends en compte les commentaires qui ont été faits à Buenos Aires, oui, de toute évidence. Karen au micro. Y a-t-il d'autres questions? C'est votre dernière chance de poser une question. Très bien. Eh bien, je remercie tous nos panélistes. Merci pour cette mise à jour et on se retrouve la prochaine fois.